Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Il y a quelques jours, l'instance supérieure indépendante pour les élections a confirmé la tenue d'un scrutin législatif le 17 décembre prochain en Tunisie. D'après le nouveau code électoral, il s'agit d'un vote majoritaire avec un second tour dans le cas où le candidat arrivé en tête n'obtiendrait pas la majorité. Plusieurs partis politiques ont annoncé qu'ils ne participeront pas à ces élections, notamment ceux regroupés dans le Front de Salut National, une coalition autour des partis islamistes Ennahda et Karama, et de Kalb Tounes, le parti de l'homme d'affaires Nabil Karoui. Le politologue et islamologue Hamadi Redissi analyse le poids actuel du courant islamiste en perte de vitesse. Ensuite, nous lirons la presse régionale Israël et Monde Arabe avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchantier au Caire. Bonjour Hamadi Redissi.
Bonjour Éric Bataillon.
En 2019, vous publiez un livre collectif, la tentation du populisme. Diriez-vous que la Tunisie, aujourd'hui, a cédé à cette tentation ?
Oui, elle y a succombé largement. Nous pensions que c'était seulement un moment électoral, voire électoraliste, c'est-à-dire où le populisme, dans le sens que le populisme aura été utilisé uniquement comme une stratégie électorale pour gagner des voix. Il s'avère que c'est une institution représentée en la personne du chef de l'État, qui est lui-même la concrétisation et la principale figure du populisme tunisien.
Alors, cette tentation dans laquelle est tombée la Tunisie, est-ce en 2019, lors de l'élection présidentielle, ou en 2021, lors du 25 juillet ?
Non, la tentation, elle y a succombé lors des élections de 2019. Les élections de 2019 ont été faites sur un fond de type populiste. C'est-à-dire, on a monté le peuple contre les élites, en accusant les élites de, à la fois d'être corrompues, d'être incompétentes et d'être des suppôts de l'étranger. On a considéré que les élites de la Tunisie étaient regorgées de ressources économiques qui sont bradées à la France, et qu'il y a même des accords secrets entre la Tunisie et la France pour que la France puisse exploiter ses ressources, évidemment, de façon non légale. On a opposé les médias aux médias. On a donc utilisé tous les ressorts d'une politique de type populiste telle que nous la connaissons en France ou aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Et c'était une grande surprise parce que tout simplement, seuls les pays démocratiques ou les pays en voie de démocratisation connaissent ce genre de phénomène. Ce phénomène ne peut pas être connu dans des pays communistes où l'idéologie centrale consiste à tout accaparer dans les mains du système, où il y a un système fermé, ni dans des pays qui sont totalement autoritaires. C'est le populisme né dans des situations intermédiaires où le pays n'est pas, ou bien connaît une crise, ou bien il connaît une crise de croissance ou une crise économique structurelle. Voilà.
Est-ce que ce populisme naissant en 2019 met fin à la révolution ?
À l'époque, on ne pensait pas qu'il allait mettre fin à la révolution, mais qu'il allait, comme il était essentiellement de droite, représenté par Kais Saïd, soutenu à l'époque par Ennahda et par les salafistes de Karama, et soutenu par les partis nationalistes arabes. Et donc, il y avait un tournant conservateur visible en 2019. On ne pensait pas que ce tournant allait après devenir une véritable politique qui consiste à mettre fin à la transition politique et instaurer une dictature de type personnel en la personne du chef de l'État.
Qui est responsable de cette situation selon vous ? Est-ce que c'est l'islam politique ?
Oui, l'islam politique a joué un grand rôle dans la montée de la figure de Kais Saïd, en amont et en aval, par action et par défaut. Par action, parce qu'il l'a soutenu et il pensait pouvoir le manipuler comme c'était un personnage sans parti politique, à la culture politique ambiguë, à la fois de droite et de gauche, de droite dans les valeurs, de gauche dans le modus operandi, dans la façon avec laquelle il revendiquait le legs révolutionnaire de la révolution tunisienne. Donc il pensait que c'était quelqu'un qu'il pouvait manipuler facilement. 100, mais par défaut, parce que la montée de Qaïs Saïd fait fond aussi sur l'échec de cet islam politique qui a géré le pays pendant 10 ans et qui, évidemment, a laissé le pays exsangue avec une crise économique sans précédent et des institutions pratiquement à l'arrêt et un délitement du lien social qui fait que, évidemment, les Tunisiens se sont reportés sur une figure de type charismatique, pensant que la personne en question allait être le sauveur de la démocratie. Il en a été le fossoyeur.
Mais l'islam politique, s'il a perdu, est-ce qu'il a disparu totalement aujourd'hui en Tunisie ?
Non. Il a baissé dans les sondages. Les gens lui sont aujourd'hui hostiles parce qu'ils ont parié sur cet islam politique. Après tout, si le peuple est une notion unitaire, on ne peut pas dire que ce n'est pas le même peuple qui a voté pour le parti islamiste en 2011 et c'est le même qui a soutenu Qaïs Saïd dans sa lutte contre l'islamisme. C'est qu'évidemment, le peuple a parié sur cet islam politique, pensant être une bonne alternative au régime précédent dirigé par Ben Ali. Mais évidemment, ceux qui considèrent que l'islam politique est fini ont tort, parce que l'idée que, évidemment, un État doit être dirigé de façon religieuse est encore soutenue par des forces sociales qui peuvent, évidemment, dans une autre configuration, refaire peau neuve et redevenir une force nouvelle prête à gouverner le pays. Seulement, l'avantage de l'expérience tunisienne, c'est qu'elle a montré deux choses. Non seulement elle a montré que l'islamisme est soluble dans l'urne, mais elle a montré que l'islamisme au pouvoir, quand il n'arrive pas à islamiser le pays, se banalise dans une politique de clientéliste prépendiaire qui consiste à distribuer les avantages et les prébendes à leurs militants et à leur électorat. Et par conséquent, le grand échec de l'islam politique en Tunisie, ce n'est pas qu'il n'a pas réussi à islamiser le pays, ni le fait qu'il s'est ramolli et qu'il s'est assagi, mais qu'il a été à la base de la crise économico-sociale qui a amené Qaïs Saïd.
Lequel a siphonné finalement l'idéologie comme les votants en faveur de l'islam politique.
Il a phagocyté l'idéologie. Parce qu'il en a pris tous les éléments conservateurs contre l'homosexualité, contre l'égalité en matière d'héritage, avec des références jamais égalées à la période prophétique et quasi-prophétique, ou post-prophétique. Même au niveau de la Constitution, il a intégré des éléments conservateurs et ambigus qui peuvent, dans une autre configuration politique, amener à ce que l'État devienne un État quasi-religieux, sinon religieux. Donc, il lui a siphonné son idéologie, il lui a pris également sa base sociale, qui évidemment s'est reportée sur un personnage qui était, après tout, convient tout à fait à un islam conservateur, à un islamisme sans idéologie. Voilà, Saïd, c'est un islamisme sans idéologie, et ça correspond exactement à l'idée que le public a de lui-même et de son identité religieuse.
Mais comment s'adresse-t-il à la population tunisienne ? Est-ce qu'il passe par les médias traditionnels, la télé ou les journaux ?
Jamais. Jamais il n'a participé à un débat public contradictoire, sauf durant la campagne électorale, quand il y a évidemment, sur le modèle américain, 7-8 candidats auxquels on pose des questions. Mais là, ce n'est pas un débat à plusieurs, c'est un débat avec les journalistes. Il n'a jamais participé à un débat avec les autres formations politiques ou les autres acteurs. Il parle ex cathedra, en invitant des ministres ou son premier ministre, en s'adressant directement au peuple, en faisant un montage et en mettant ce discours, ce spot d'une dizaine de minutes, systématiquement, parfois il en fait 2 à 3 par jour, des adresses à la population. Il est seul face au peuple, sans aucun corps intermédiaire. Il a une haine incroyable aux partis politiques, aux corps intermédiaires, ce qui est le propre de tout populisme.
Et il s'adresse au peuple à travers les réseaux sociaux, en direct.
Absolument. J'ai travaillé sur les réseaux sociaux. Avant, en 2019, Saïd est monté, Saïd a gagné les élections grâce à un réseau de 30 pages Facebook et groupes qui ont évidemment mené sa campagne pour qu'il soit président. Et c'est eux qui l'ont. Et donc, il est à l'écoute de ces réseaux sociaux et c'est eux qui lui parlent et c'est à eux qu'il parle. Et Ça, c'est également un caractère nouveau du populisme, gouverné par les réseaux sociaux et non pas par l'opinion publique classique.
Un peu sur le mode de Trump, par exemple, aux États-Unis.
Absolument, sur le mode de Trump, sur le mode de tous les populistes, s'adresser soit directement au peuple, soit à travers des réseaux sociaux parallèles aux médias de type classique.
Amadi Redici, à votre avis, à quoi vont ressembler les prochaines élections législatives qui auront lieu en décembre ?
Il est fort à parier que les principales forces politiques ne participeront pas aux élections, c'est-à-dire le parti islamiste, le parti de Habir Moussi, l'ancien parti du Destour, l'ancien Destour, et la force de gauche, la coalition de gauche réunie de 5 partis d'une coalition de gauche. Ce sont aujourd'hui les 3 forces politiques majeures qui structurent la vie politique ou ce qu'il en reste. Il est fort à parier qu'ils ne participeront pas. Ça ne sera plus le mode de scrutin de la représentation proportionnelle au plus fort reste. Ça sera le scrutin uninominal à 1 ou 2 tours. Et il va probablement interdire aux partis politiques de se présenter en tant que tels. Et donc il y aura des élections ou des individualités atomisées, comme on fait des masses atomisées, qui se présenteront au Parlement, lequel est Parlement, de toute façon, n'a aucun pouvoir. Dans la nouvelle mouture de la Constitution, qu'est-ce qu'un Parlement qui n'a pas le droit à la motion de confiance ? Il a seulement le droit à censurer le gouvernement, mais à la majorité de 2/3 des 2 chambres réunies, ce qui est impossible à réunir. Non, ce sera un Parlement croupien.
Qui seront ces électeurs à ce moment-là ?
Probablement ceux-là même qui ont voté le référendum. N'oublions pas que Kassaïd a une base sociale forte. Il faut dire les choses. Nous avons aujourd'hui une grande partie de la population qui déteste la démocratie, qui ne veut plus de cette démocratie qui a amené les islamistes au pouvoir et qui nous a amenés à cette crise économique et sociale. Les gens veulent parier sur un pouvoir neuf, une constitution neuve, un homme neuf, quitte à ce qu'il gouverne de façon autoritaire. Malheureusement, le constat est là. Il est probable que les élections auront lieu avec un taux de participation faible, comme ça a été le cas pour le référendum. Après tout, c'est 25% sur le corps électoral. 25% ont voté contre et 50% ont boycotté. Ça fait quand même 75% des votants ont été contre cette constitution. Pour la consultation qu'il y a eu avant, c'est-à-dire la consultation électronique, il y a eu à peine 500 000 personnes qui ont participé. Kassaïd a considéré cela comme un grand succès. Et donc, il est fort à parier. Il ira tout seul aux élections avec ses bases à lui, ses votants à lui. Et ce sera la Tunisie divisée en 2.
Merci Amadi Redici.
Merci à vous, Eric Bataillon.
Hebdo sur RFI.
Nous lisons maintenant les journaux de la région, direction Le Caire, où nous retrouvons Alexandre Boutchanti. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Alexandre, les journaux arabes se font l'écho de la tension entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis après la décision de l'OPEP+ de baisser la production pétrolière.
L'Arabie Saoudite rejette les déclarations à son encontre selon lesquelles la décision de l'OPEP+ de baisser la production de pétrole était un parti pris dans des conflits internationaux. Une réponse aux accusations américaines selon lesquelles l'Arabie, en soutenant la décision de l'OPEP, se rangeait aux côtés de la Russie. L'Arabie n'est pas une république bananière, titre l'éditorialiste saoudien Meshar Zaidi. Il ajoute que la réponse saoudienne au tumulte et à l'agitation américaine de l'administration Biden est un instant crucial dans les relations saoudo-américaines. L'éditorialiste note que Biden et ses hommes se sont déchaînés et ont menacé la seule Arabie saoudite, alors que l'OPEP+ comprend plus de 20 pays. L'Arabie n'est pas une république bananière répondant aux désiderata électoraux de l'administration américaine, mais un État souverain qui défend d'abord les intérêts de ses citoyens, conclut l'éditorialiste. D'autres analyses de la presse du Golfe indiquent que les alliés arabes des Américains n'acceptent plus une hégémonie d'un autre âge et évoquent la fin de la domination américaine sur le monde.
Un reportage sur Lynn Clive à la une d'Al-Sharq al-Awsat. Alexandre, c'est une reine de beauté anglaise d'origine syrienne.
Sois belle et bats-toi, c'est ainsi qu'Al-Sharq al-Awsat présente Lynn, syrienne née à Damas en 1993, qui a fui la guerre civile avec sa famille pour se réfugier en 2013 en Angleterre, où elle s'est battue pour s'intégrer. Elle a réussi à apprendre l'anglais et terminer des études de médecine, aussi à devenir top modèle et, devenue britannique, Madame Royaume-Uni, la reine de beauté, est mariée à Nigel Clive, duquel elle a une fille de 14 mois. Elle est aussi impliquée dans de nombreuses ONG caritatives, notamment en faveur des réfugiés. Elle devait participer au concours Madame Univers aux États-Unis, mais son visa a été refusé car elle est originaire d'un pays sponsorisant le terrorisme, selon Washington.
Merci Alexandre, et à la semaine prochaine. Direction maintenant Jérusalem. Bonjour Michel Paul.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Michel, une revue de presse spéciale à 2 semaines des élections législatives du 1er novembre. 5e consultation électorale pour les Israéliens en 3 ans et demi. Michel, la campagne électorale commence tout doucement à se réchauffer.
Eric, il faut dire que les Israéliens, pendant tout l'été, ont été occupés par ailleurs. D'abord, c'était la période des vacances, et l'été a été chaud à Gaza, et ensuite en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Il y a eu aussi la flambée des prix qui touche les Israéliens, et ces derniers jours, le projet d'accord sur les frontières maritimes avec le Liban. Alors, tous ces sujets font partie de la campagne électorale qui était jusqu'à présent quelque peu somnolente, mais maintenant, pour la dernière ligne droite, les choses s'éveillent très nettement. D'abord les sondages, l'expérience des dernières consultations le montre, ils sont peu fiables. Le problème, c'est bien sûr que les 2 grands blocs politiques sont pratiquement toujours ex aequo. On note cependant une tendance au renforcement de la droite qui pourrait ainsi de justesse mettre sur pied une coalition gouvernementale sous la direction de Benjamin Netanyahou. Le retour de Bibi, affirment les médias, c'est un titre que l'on retrouve un peu partout. Après l'expérience du gouvernement sortant, plusieurs commentateurs et aussi quelques candidats posent la question « Est-il légitime pour un parti qui n'a que quelques députés de diriger les affaires du pays ?»
Donnez-nous la carte d'identité des forces en présence, Michel, vue bien entendu par la lorgnette des médias en Israël.
Ce ne sont pas moins de 13 partis qui ont de sérieuses chances de passer le seuil électoral et siéger de cette manière à la prochaine Knesset, Eric. Et il y en a encore d'autres, certains, totalement fantaisistes. Et les éditorialistes sont unanimes. C'est un combat sans merci, mené d'un côté par un géant de la politique israélienne, que ses supporters et une partie de la presse n'hésitent pas à surnommer le magicien. J'ai nommé Benjamin Netanyahou. Pour les commentateurs, c'est pour lui une question de survie. Dans de nombreuses interviews, les membres de son alliance proposent de changer le système judiciaire en cas de victoire aux élections, notamment pour le sauver dans son procès pour corruption et abus de confiance. Et de l'autre côté, c'est Yair Lapid et Benny Gantz, nettement moins populaires dans les sondages, mais les médias mettent l'accent sur les partis arabes, la dislocation de la liste unifiée et aussi le désintérêt de la population arabe. Plusieurs études le proclament, le taux de participation des Arabes israéliens le 1er novembre sera particulièrement peu élevé, 39% seulement, et 15% de cet électorat est encore indécis sur le choix du parti. Plein feu également sur Itamar Ben-Gvir, député d'extrême droite à l'idéologie raciste et homophobe. En cas de victoire de Netanyahou, le parti du sionisme religieux auquel Ben-Gvir est allié sera un pivot de la nouvelle coalition. Et de l'avis de tous les analystes, il deviendra ministre. C'est le cauchemar de la gauche israélienne.
Merci Michel Paul. Orient Hebdo, mise en onde et réalisation Mathias Golshani. Pas d'émission demain pour cause de football. RFI retransmet le classico entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Alors si vous n'aimez pas le foot, vous pourrez réécouter cette émission sur notre site RFI.fr, en podcast, sur notre application Pure Radio et évidemment sur la plupart des plateformes numériques. À samedi prochain, prenez soin de vous.